Salut les runners, c'est Nico et Tristan. Bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement.
Retrouve-nous chaque mois pour échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience pour booster ta performance et renforcer ta passion. Et pour soutenir notre podcast et aider à le faire connaître, partage-le à d'autres coureurs. Et surtout, n'oublie pas de nous laisser une note 5 étoiles. Bonjour tout le monde, normalement c'est bon, nous sommes en live.
On y est ?
Excusez-nous pour le petit retard, c'est vrai que c'est la première fois qu'on mettait en place ce setup. Bref, c'est pas très très grave, commençons tout de suite, puisque nous sommes réunis à 4 aujourd'hui pour le Campus Talk spécial Marathon de Paris. Nous savons que sur Campus, vous êtes très très nombreux pour cette course qui est sûrement le marathon avec le plus de participants de France. Donc, c'est normal de prendre un petit peu de notre temps pour essayer de vous rassurer, de vous donner des bons conseils. On va dire que la grande majorité des conseils qu'on aurait pu vous donner, on vous les a déjà donnés les mois qui ont précédé. Mais maintenant, c'est peut-être les petits conseils qui vont pouvoir faire la différence le jour J. Bref, je vous fais un court sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui. Première partie, un peu Campus de manière générale et le Marathon de Paris. Un peu de moment dédié à Campus parce que le Marathon de Paris est un grand événement pour nous. Ensuite, conseil logistique. Tout ce qui va être au niveau des retraits des dossards, tout ce qui va être le jour J, comment est-ce que ça se passe. Ensuite, on va faire une petite revue du parcours et de la stratégie de course, des stratégies de course qui vont pouvoir être possibles le jour J et qu'on vous conseille le plus. Et pour terminer, donc nos derniers conseils et surtout un Q&A, vous pouvez être sûr qu'on ne quittera pas ce live tant qu'il y a des questions dans le chat. Donc ça, c'est une petite certitude que je vous donne. Voilà, je pense que le sommaire est fait. Donc écoutez-moi, je suis Tristan, le coach de votre plateforme d'entraînement en course à pied Campus, et je vais pouvoir vous présenter. Donc je suis accompagné Tu as mis la caméra sur eux, c'est bon.
Excuse-moi. Ah oui, on teste aussi le setup, attention, magie, nos parfait. Invités.
Donc Tom, que je montre, 19 ans. Un des mentorés du programme Campus Mentor. Le but aujourd'hui, c'est que comme tu vas courir le marathon, si jamais tu as des questions, tu vas servir d'humain exemple pendant ce live pour représenter un peu tous ceux qui sont dans le chat et qui posent leurs questions. Ça, c'est la première chose. Tu as les questions sous tes yeux aussi, donc tu vas pouvoir prendre la parole pour eux dès que tu vois une question, dès que tu vois quelque chose. On compte sur vous deux, donc sur Tom, et puis aussi à toi Octave. Ouais. Tu es pacer sur Paris.
C'est ça, sur Paris.
Le pacer sur Paris, voilà. T'as fait des belles sorties là dernièrement, justement pour reconnaître le marathon de Paris, le parcours. Je crois que vous l'avez fait en deux fois, c'est ça ?
C'est ça, on a fait partie Est et partie Ouest la deuxième fois.
Parfait. Donc je sais, enfin. Plusieurs dizaines. Est-ce que vous avez dépassé les 100, il me semble ?
On a fait 110 à la dernière reco.
Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de gens sur Campus qui ont pu, grâce à toi, entre autres, savoir un petit peu ce qui pouvait les attendre.
Pour les invités.
Ça, on vous les entend pas ?
Apparemment. J'ai plusieurs messages.
Yes, super.
Bon, vu que mon micro, il a l'air de marcher, je vais pouvoir meubler un petit peu. Le Marathon de Paris, c'est dans moins de 3 semaines maintenant, donc pour tous ceux qui sont en train de le préparer, on voit la tête de Tristan, vous inquiétez pas, tout va bien, il y a toujours pas de son. Par contre, on a des caméras qui peuvent changer, donc je peux me mettre en full cam pour vous parler en attendant, les amis. Oui, ce marathon de Paris, vous pourrez nous retrouver, on va commencer par le programme, un petit peu de ce qui va se passer sur le salon du marathon de Paris, parce qu'il va se passer quand même pas mal de choses sur le stand Campus, notamment des petits podcasts. Aujourd'hui, on est en répétition générale du setup, comme vous le voyez. Il y a encore des petits trucs à améliorer, mais on va y arriver.
Bon, écoutez, c'est pas très très grave. Je vous tendrai mon micro comme ça. On va faire ça comme ça. On a un beau setup et on va le détruire juste pour réussir à parler. C'est pas très grave.
Je prends une petite question que j'ai vue passer au passage parce que sinon on l'oubliera. Il y a Emma qui disait où sont les femmes ? Alors là, on a une équipe de l'équipe de Tristan, on va dire. Oui. Mais dans mon équipe de mentorés, il y en aura 3 pour le prix d'une. Il y a Ariane, il y a Caro et il y a Manon. Donc, vous inquiétez pas, on est à la parité, juste pas autour de la table aujourd'hui.
C'est vrai.
On retrouvera les filles un peu plus tard.
Ne vous inquiétez pas, les conseils vont être pour les deux sexes. Et justement, tout le monde pourra s'y retrouver. Donc tu disais que tu as fait des petites annonces sur le marathon, sur le salon du marathon de Paris, parce que c'est la deuxième année maintenant que nous sommes partenaires du marathon de Paris. Et justement, pour nous, c'est l'occasion de mettre en place des petits événements. Et la première petite annonce qu'on va pouvoir faire justement, c'est que sur le salon du marathon de Paris, on vous rappelle les horaires quand même. Le jeudi, ça ouvre à 15h jusqu'à 20h, le vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 19h. Normalement, pas besoin de montrer le plan, vous ne pourrez pas nous rater, on est vers le début. Voilà, et en tout cas, donc, ce que tu disais, webinaire, on a 4 podcasts, quatre podcasts qu'on va pouvoir enregistrer en live. Le premier avec Marine, plus connue sous le nom de Court Petite Tomate, qu'on va pouvoir interviewer vendredi à 11h. Ensuite, une autre Marine, Marine Leleu, qui est elle, on va pouvoir l'interviewer vendredi à 16h. Et enfin, le samedi cette fois-ci, Guillaume. Guillaume, ça ne vous parle pas forcément, mais c'est le présentateur, le co-animateur de Dans la tête d'un coureur, samedi 14h. Et enfin, un habitué maintenant de notre podcast, Eric Flagg, qui va pouvoir revenir samedi 17h. Donc, Court Petite Tomate, vendredi 11h, Marine Leleu, vendredi 16h, Guillaume dans la tête d'un coureur, samedi 14h et Eric Flagg, samedi 17h. Donc ça, c'est pour la première petite chose. Maintenant, je me tourne quand même vers toi, Octave, parce que le deuxième petit événement qu'on va organiser autour du Marathon de Paris, c'est le Checkout Run. Le fameux petit run d'activation, exactement, à la veille du marathon, le samedi. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Donc samedi 6 à 10h, où ça, quand, comment?
Samedi 6 à 10h, c'est ça.
Exact.
Rendez-vous place de la Concorde, enfin Jardin des Tuileries, entrée place de la Concorde. Donc ça sera un petit run de 20-25 minutes, avec quelques lignes droites à la fin, histoire de bien réveiller les jambes, voilà.
Parfait, voilà. Donc en gros, il vient de m'enlever toutes mes notes. entre des parcs des Tuileries, du côté de la place de la Concorde. Donc, la place de la Concorde, c'est où il y a l'obélisque, c'est tout au bout des Champs-Élysées. Donc voilà, je sais qu'il y a des accès en métro qui sont juste à côté parce qu'on va pouvoir rallier. Pourquoi le jardin des Tuileries? Parce qu'on peut rallier directement par le métro 12. Le parc du salon des expositions de Versailles. Donc en gros, on fait ce petit run d'activation dans un cadre qui est quand même très sympa, qui va pouvoir aussi, qui va permettre sûrement à une grande majorité de personnes qui n'habitent pas à Paris de visualiser à quoi ressemble le départ du marathon, puisqu'on le répète, on le rappelle plutôt, le départ du marathon de Paris se fait sur les Champs-Élysées et va passer au bout du premier kilomètre, justement sur cette place de la Concorde, devant le parc des Tuileries. Donc c'est aussi l'occasion pour vous, sans trop marcher, on reviendra, de reconnaître un tout petit peu les lieux. Donc à 10h, et ensuite, on se donne rendez-vous sur le salon du marathon, directement en métro. Tu seras en pacer, il me semble qu'il y aura d'autres pacers aussi.
Oui, c'est ça. Il y aura, il me semble qu'il y aura Yousra Anthony de la Team Paris. Et si j'ai oublié des noms, désolé.
Ouais, et puis il y aura Mélanie et Colline, voilà.
Mélanie et Colline.
Et l'interrogation 0 sur 20, allez. Donc ça, c'est pour les petites animations, voilà. Donc ça, c'était le petit moment un petit peu campus pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, fin de l'instant promo campus. Tous ceux que ça intéressait auront noté les informations et vont pouvoir passer à des conseils un tout petit peu plus globaux sur le marathon de Paris. Alors je sais que ici, tout le monde a fait le marathon de Paris normalement au moins une fois.
Je l'ai fait même 3 fois. Pour être exact.
Parfait. Et toi, ton compte, Tom?
Alors, pour moi, c'était l'année dernière aussi. Je l'ai fait. C'était très cool.
Ok. Et toi, t'en as au moins 2 à ton actif?
Un tout seul. Et puis un avec notre ami Nassim l'année dernière. Donc, ça fait 2. Le compte est bon.
Pas prévu de le recourir cette année?
Alors, cette année, je vais être sur le bord. J'ai plein de monde à encourager. Mais c'est une très mauvaise idée de faire un salon plus le marathon. Donc, je ne referai pas cette année.
Ça marche. Et moi, j'en suis à un aussi en 2019. C'était la dernière année avant qu'il change un tout petit peu le parcours. Il me semble que du coup, l'édition de la reprise, c'était 2022.
C'était 2021.
2021,
ouais,
ils ont fait.
Ouais, c'est ça. Et non, ils ont changé le parcours l'année dernière, d'après mes souvenirs.
Ok, d'accord. Justement, on reviendra dessus le temps voulu. Alors, les gens pour qui c'est le premier marathon majoritairement, ou alors qui n'ont pas l'habitude de faire ça dans des grandes villes, c'est vrai qu'une chose qui peut impressionner un petit peu, c'est le salon, c'est justement la run expérience, le fait de retirer les dossards. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de stress qui peut arriver à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez, vous, un petit peu, votre premier marathon les sensations ou le sentiment que vous aviez quand vous étiez allé retirer vos dossards ?
Moi, c'était un peu particulier parce que j'ai couru avec le dossard de quelqu'un d'autre parce que j'avais pas l'âge pour le faire. Donc, j'ai pas pu avoir.
T'as 19 ans là aujourd'hui.
C'est ça.
Tout est légal. Tout est légal. Sous ma responsabilité, toutes les règles seront respectées.
Le marathon de Paris est un peu spécial parce qu'il demande 20 ans minimum. Contrairement à d'autres marathons qui demandent 18 ans. Ça va, j'aurai 20 ans avant la fin de l'année, donc ça fait l'affaire.
Ah oui, d'accord. Ouf. Je me suis dit, est-ce qu'on annule tout ? Est-ce que je t'empêche de courir le marathon de force ? Non, c'est bon, oui, c'est l'année des 20 ans. Ok, ça marche. Premier petit conseil qu'on va pouvoir donner sur le salon du marathon. Nous, on le voit en tant qu'exposant et on le voyait en tant que participant avant. Si vous ne voulez pas faire une queue de dingue, ne venez pas le samedi. Vraiment, je sais pas combien de temps les gens attendent, mais je pense que c'est au moins une heure avant de pouvoir rentrer dans le salon le samedi. Si vous pouvez venir le jeudi, si vous pouvez venir le vendredi, vraiment, ça n'a rien à voir. Et quand je dis rien à voir, je parle du simple au triple ou au quadruple. Normalement, on aurait dû recevoir Thomas Delpech de Asso, qui a eu un petit empêchement au dernier moment et qui n'a pas pu nous faire le plaisir d'être présent, mais il aurait pu en parler mieux que nous. Mais on va quand même essayer de retransmettre un maximum d'informations qu'il aurait pu vous donner. Donc oui, si jamais vous voulez justement vous préserver, parce qu'on sait que l'un des enjeux sur le marathon, c'est de justement pas trop dépenser d'énergie sur le salon, à la fois profiter, parce que la run expérience, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est un juste milieu. C'est-à-dire que si on se dit « Ok, j'ai une heure de mon temps à dépenser », je le dépense sur le salon, c'est mieux de le dépenser dans le salon que de le dépenser dans la file d'attente. Donc voilà, essayez de vous manager un tout petit peu, essayez de préserver vos jambes pour pouvoir faire la plus belle course possible le dimanche, et ça passe aussi par prévoir son temps pour aller retirer vos dossards. Vous allez le retirer quel jour ?
Moi je pense plutôt le vendredi matin, du coup pour éviter la queue du samedi et arriver en pleine forme le jour J, tout simplement.
Et toi Tom ?
Pareil pour moi, je pense le jeudi ou le vendredi.
C'est bien, voilà. Comme je suis son mentor, j'en profite, je prends les informations et je serai là pour le remettre dans le droit chemin. Comme je l'ai dit, de toute façon, il a couru le semi-marathon de Paris, Allure Marathon, donc ça commence mal. Non, évidemment, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le retrait des dossards en lui-même. Alors, je vous rappelle des informations un peu... technique, on va dire ça comme ça, mais le jour J, il vous faut une pièce d'identité, l'oubliez pas parce que c'est vite fait d'arriver, de pas avoir de carte d'identité, on ramène le permis ça compte pas comme une pièce d'identité, et puis après on est obligé de revenir, bref, prenez une carte d'identité avec vous. Si jamais vous avez déjà mis sur la plateforme soit votre certificat médical, soit votre licence, vous n'avez pas besoin de la ramener, même si... Je remets pas en question l'administration d'Asso qui normalement fonctionne très très bien, mais si vous voulez un petit backup, une petite impression dans la poche, et au moins elle vous servira pas, mais au moins vous êtes sûr, et le petit QR code que normalement vous avez reçu par mail, que vous pouvez soit avoir sur votre téléphone, soit que vous avez pu imprimer. Voilà, ce sont les trois choses nécessaires, et encore une fois, vous n'avez pas besoin de ni certificat médical ni licence si jamais vous l'avez mis sur la plateforme. Vous avez bien noté ? C'est bon ?
C'est bon.
On ne te demandera pas comment tu as fait pour retirer un dossard avec lequel tu n'avais pas ton nom, mais ce n'est pas grave. C'était avant. Et sinon, hormis ça, il y a aussi une petite possibilité, j'ai vu. Je sais que Eric, l'année dernière, l'avait fait. Eric Flack, quand il avait participé au marathon, de changer de sas si jamais vous avez une preuve de performance, soit une course précédente, soit quelque chose.
De mémoire, je dirais uniquement à partir des sas... 3h ou 3h15. Je crois qu'au-delà, les changements sont libres au final. Au-delà, dans le sens plus vite, plus lent. À partir des sas 3h15, 3h30, je pense qu'on peut le faire sans justificatif. Et si vous hésitez entre deux sas, prenez celui qui est un peu plus rapide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas hésiter, qui vont prendre un sas beaucoup trop rapide pour eux. Donc, si vous hésitez entre deux, n'hésitez pas à aller dans le plus rapide, parce qu'au final, vous serez bien placé. Faites pas n'importe quoi non plus dans l'autre sens, mais prenez ce message dans le bon sens du terme.
Oui, parce que on va dire que dans un monde parfait, tout le monde se mettrait dans le vrai sas dans lequel il devrait courir, mais force est de constater que malgré, moi ça faisait 5 ou 6 ans que je disais non mais respectez, si tout le monde respecte, ça va bien se passer, et en fait personne respecte, et au final toi tu l'avais vu à Valence où c'était catastrophique.
Oui, puis même... même au marathon de Paris l'année dernière, au final, avec Nassim, on s'était placé en fond de sas 3h45, 3h30, je sais plus. Mais non, en fond de sas 3h30. Et en fait, il y avait tout un tas de gens. On a passé 10 km à doubler. Donc, alors qu'on était sur une allure 3h30, pas plus vite. Donc, ouais, faut, en fonction de ce qu'on veut faire aussi, il faut se placer en début de sas. Si on vise pile 3h30, bah, faut se dire que le sas, il va de 3h30 à 3h45. Donc, vaut mieux être en début de sas et pas se faire piéger parce que ça coûte beaucoup d'énergie après de devoir slalomer et de, pour doubler.
Profitez-en si jamais vous voyez qu'il y a des questions sur, là on est sur le salon, si jamais il y a des questions intéressantes de gens qui peuvent s'interroger sur comment ça se passe, etc. N'hésitez pas, mais normalement vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, c'est assez impressionnant de prime abord, mais en réalité il n'y a vraiment rien de difficile, tout est hyper bien indiqué. Il n'y a vraiment pas besoin de se stresser sur ça à partir du moment où voilà, vous avez vos petits papiers qui vont bien, vous avez prévu, vous savez où c'est, parc des expositions à Versailles, à partir de là, franchement, tranquille, allez-y, l'esprit libre. On s'en fait tout un flanc et en fait, ça se passe plutôt bien. Donc juste, je vous le répète une dernière fois, mais l'idéal, si j'étais vous et si je courais le marathon le dimanche 7, je ne passerais pas des heures et des heures debout à piétiner, ce qui implique soit de faire moins de queue, soit de passer un petit peu moins de temps sur votre salon. Donc ça dépendra le jour. Je sais que bah, les gens travaillent, hein, donc ils peuvent pas forcément venir en semaine. Mais voilà, prenez ça en compte. Et si jamais vous y passez un petit peu de temps, prévoyez de quoi manger. On sait que les jours avant la course, on va dire la recharge en glucides est assez importante. Donc si bah, le transport, plus le salon, plus la queue, ça vous prend 3, 4, 5 heures dans votre journée, pensez à ramener quelque chose à manger parce que bah alors, soit vous pourrez acheter des choses sur le salon qui seront de la nutrition d'effort classique, soit sinon la seule chose à côté, on va dire que le McDo est assez tentant, et le McDo la veille du marathon, après le marathon vous faites ce que vous voulez, avant le marathon c'est peut-être pas idéal pour essayer de faire une belle course et de profiter. Une chose qu'on peut oublier, c'est que là, si vous, enfin, par exemple imaginons vous mangez un McDo ou quoi que ce soit comme mauvaise nutrition, ça va venir inflammer un petit peu votre flore intestinale. Et si de base, vous avez un petit peu de mal à gérer votre nutrition pendant l'effort, ça va la rendre encore plus compliquée parce que l'effort, ça déstabilise tout ça. La flore intestinale que vous avez au départ de votre course va pouvoir impacter un petit peu la qualité de votre prise nutritionnelle pendant la course. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais voilà, la qualité de la nutrition avant permet aussi de mieux manger pendant. On parlera tout à l'heure un petit peu de nutrition pendant la course, juste un tout petit peu plus tard, parce que je sais que toi, Tom, c'était un gros sujet qu'on avait eu ensemble, où justement, il y avait un peu tout à faire. Donc ça permettra de redonner les bons petits derniers conseils.
Oui, c'est vrai que j'avais très peu d'expérience sur ce côté-là, et je voulais te remercier parce que tu m'as très bien guidé, comme dans d'autres aspects, mais on en reparlera plus tard.
Ouais. Je te donne un petit avant-goût, Nico, le petit classique de « Ah ouais, mais du coup, je me suis pas alimenté parce que j'avais pas forcément faim ». Et oui, on en reparlera.
Le classique.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le salon de manière générale ? T'as quelque chose à rajouter ? Ou on peut passer le jour J ?
Allons-y.
Ok, et ben on passe au jour J. Donc normalement, voilà. Ce qu'on peut juste vous dire, c'est que vous avez tous votre sas. Vous savez à peu près les heures d'arrivée. Alors je pourrais vous les donner en temps réel. Je sais qu'ils préconisent d'arriver une demi-heure avant le départ de votre sas. Donc par exemple, si vous êtes le sas 4h, vous partez à 10h06 et ils préconisent d'arriver à 9h35, une demi-heure avant. Je pense qu'arriver une demi-heure avant, c'est pas trop, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Nico.
Alors être dans le sas statique,
je suis d'accord que ça peut être un peu too much. Mmh. Mais tu sais, arriver sur place, peut-être s'échauffer un tout petit peu.
Ouais. Sachant qu'il va y avoir un petit paquet de monde sur les Champs-Élysées. C'est pas vous allez arriver, vous êtes en promenade, il y a du monde, on peut le temps qu'on trouve où est l'entrée de son sas, qu'on se place devant si on veut se placer devant, vaut mieux ne pas se stresser le jour d'une course. C'est le principal, c'est ça, on n'est pas à 10 minutes près. Donner un exemple, moi sur mon 10 km dimanche, je suis rentré dans le sas une quinzaine de minutes avant alors que il y avait 1500 ou 2000 coureurs au départ. Donc au moins 20 minutes, je dirais, pour le marathon de Paris, c'est un minimum. Et ça permet d'y aller relax. Après, on est dans son sas, on se met en mode, il n'y a plus qu'à courir, on pense plus à rien. Et juste, on profite à partir de là.
En gros, si vous devez visualiser un petit peu à quoi ça ressemble, il y a le bout des Champs-Élysées devant l'Arc de Triomphe qui va être grillagé, j'allais dire, mais voilà, qui va être bien délimité par des barrières. Donc une fois que vous serez rentré, je ne suis pas sûr que vous puissiez sortir. Et en revanche, tous les abords, les trottoirs, les rues parallèles, etc., bah, vous pouvez très bien vous échauffer dedans, vous pouvez... voilà, votre famille peut vous accompagner vraiment jusqu'au moment où vous allez pouvoir passer la barrière et rentrer dans votre sas de départ. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment de l'espace pour pouvoir faire ce qu'il faut juste à côté. Il y a tout ce qui est vestiaire qui est un tout petit peu plus loin, donc peut-être un bon 500 mètres, 1 km. Donc il va falloir marcher un tout petit peu. Le matin, il fait froid. Je préfère le préciser. Je ne sais pas quelle température va être... enfin, à l'avance, hein, enfin, même 2 semaines à l'avance. Déjà, la météo pour le lendemain, c'est compliqué. Donc, la météo pour 2 semaines à l'avance, je sais pas forcément, mais il peut faire frais. Moi, l'année où je l'ai fait, il devait faire 3-4 degrés le matin. En général, voilà, ça se réchauffe très vite ensuite, mais le matin, il peut faire très très frais. Donc, habillez-vous. Prenez une petite veste en plus qui traîne dans un placard. En plus, c'est pour la bonne cause parce qu'après, les vestes, elles sont récupérées pour bah, justement pouvoir être redonnées à des associations qui vont pouvoir les donner à des personnes qui en ont vraiment besoin. Sur le marathon, il n'est pas autorisé de mettre en place la fameuse technique du sac poubelle ou du sac plastique qui a été beaucoup utilisée mais qui fait bah, justement beaucoup de gaspillage plastique. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé, qui n'est plus autorisé. Après, honnêtement, vu la densité de personnes qu'il y a, si vous n'êtes pas trop trop frileux, vous pouvez juste vous dire, bah voilà, je prends ma veste, si jamais j'ai quelqu'un, je donne ma veste à je sais pas, ma famille, mon partenaire, qu'importe, qui m'a accompagné juste avant d'entrer dans le sas. Et après, une fois dans le sas, de toute façon, tout le monde est échauffé, tout le monde a chaud, et les 15 minutes qui restent, ça devrait aller. Dernière petite information qui est quand même très importante, parce que il vous recommande d'arriver 30 minutes avant dans votre sas, ok? Mais autant il y a des toilettes pour faire toutes les commissions possibles en dehors des sas, mais ensuite dans les sas, il n'y a que des urinoirs. Donc si vous avez un petit caca de la peur, voilà, je sais que tout le monde vit son stress un petit peu différemment, il faut quand même en parler, parce que si vous rentrez dans votre sas et qu'il se passe quelque chose et que vous le savez pas, bah en fait les problèmes commencent alors que le marathon n'a pas encore commencé. Donc je préfère vous en parler ici, je préfère mettre ça à plat, et au moins comme ça vous êtes prévenu, faites ce qu'il faut avant de rentrer dans votre sas, et ensuite que des urinoirs. Urinoirs pour femmes et urinoirs pour hommes, c'est quand même important de le préciser. Pendant très longtemps, les urinoirs pour femmes, bah, il n'y en avait pas forcément, ce qui posait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efforts, mais on essaie de rattraper justement pour proposer la même chose pour les femmes et pour les hommes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif, et vous n'allez pas être lésé sur ce point-là. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus à mettre en place vraiment d'un point de vue logistique? Encore une fois, beaucoup de stress le jour, le matin de la course, on ne sait pas forcément. On vous conseille de venir en transport, hein, parce que je ne sais pas c'est quoi la porte qui est à côté, mais souvent très très bouchée. Moi, je sais que j'étais venu en voiture, on avait beaucoup tourné pour trouver une place, et c'était pas une place très très légale, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Vous prenez pas la tête, venez en transport, c'est quand même beaucoup plus simple. La place de l'Étoile est très très bien desservie, RER A, métro 2. Je connais pas la carte de Paris par cœur. En tout cas, toutes ces informations sont extrêmement bien référencées sur le site du Marathon de Paris. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le jour J?
Bah, sur l'avant-course surtout, je dirais que quand on est dans le sas, 20, 15, 20, 30 minutes, ça peut paraître long. Mais en réalité, c'est le moment... Bah, de sociabiliser un peu. Il y a des gens autour qui font la même course et qui sont tout autant passionnés, donc c'est un bon moyen de rencontrer des gens et d'en profiter. Et ça peut être aussi le moment de respirer profondément, pas de se stresser et de se mettre à hyperventiler, justement l'inverse, de se dire on calme la respiration, on sait pourquoi on est venu, et on se met en condition pour aller faire une belle course.
Vous savez un peu comment vous allez faire le matin de la course. Bah, vous l'avez déjà vécu plusieurs fois, donc peut-être que... Un peu moins de stress là-dessus pour vous?
Franchement, j'ai plus aucun stress vu que c'est la 4e fois maintenant. Moi, j'ai de la chance, j'ai juste à prendre la ligne 1 et à me poser dans
le métro. Oh, il est à la maison.
C'est ça. Et aller sur la ligne de départ et voilà.
Ok.
Bah, pareil pour moi. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que le marathon de Paris passe devant chez moi. Du coup, ça, c'est cool. Mais moi, je suis encore jeune et je. En fait, ce marathon, je le fais pour prendre de l'expérience, quoi. Je ne mets pas trop de pression. Au niveau de l'organisation, du temps, etc. Mais c'est vrai que ça commence très tôt, le marathon, du coup, bah ça, moi je vais juste prendre le métro pour y accéder quoi.
Très tôt pour un jeune de 20 ans.
19.
Dans sa vingtaine. Maintenant on va pouvoir rentrer, hormis s'il y a des petites questions logistiques un tout petit peu sur peut-être comment est-ce que se passe la remise des sacs, etc. Mais enfin, encore une fois, hyper bien guidé.
Je vois une question de Gaspard dans le chat qui dit, si on rentre dans le sas 30 minutes avant, comment on fait pour rester échauffé? Alors, ça peut permettre de parler échauffement marathon, qui est une distance qui ne demande pas quand même un échauffement énorme, à part une partie un peu de mobilisation qu'on peut faire avant de partir de la maison ou de l'hôtel, selon où on est. Mais en fait, moi j'aime bien le fait de ne pas être trop échauffé sur un marathon aussi, parce que ça évite une erreur qu'on va pouvoir évoquer, qui est de partir trop vite. Partez tranquille, perdez quelques secondes sur le premier kilomètre, c'est pas très grave sur un marathon, ça se regagne après. Et de toute manière, même pour ceux qui vont s'échauffer, qui vont le courir à une certaine vitesse, qui veulent s'échauffer, bon, l'échauffement, il aura toujours un effet quand même 30 minutes après. Donc rien n'est perdu, vous pouvez aussi un petit peu sautiller sur place, enfin, il y a des petites méthodes, restez mobilisé dans le sas, restez pas planté comme des piquets, mais c'est pas très grave.
Oui, le but, c'est de lancer un tout petit peu tous les processus physiologiques qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir ne pas le faire pendant la course, et ça s'entretient plutôt bien, même 30 minutes après. On prend plusieurs exemples, mais par exemple, on voit des boxeurs, on voit des judokas, ça se fait beaucoup dans les sports de combat parce qu'on ne sait pas évidemment trop quand est-ce qu'on va être appelé, et on s'échauffe extrêmement en amont, et en fait on maintient juste son échauffement dans le temps, donc il n'y a vraiment pas trop de pression à avoir là-dessus. Ce qui renforce ça, c'est le stress. Le stress, c'est négatif, mais en fait, pas toujours. Parce que justement, une fois qu'on s'est échauffé, le stress nous permet de conserver un certain niveau d'activation, ce qui peut être quand même positif. Et ça va permettre de redescendre. Le marathon, l'avantage, c'est que la vitesse, c'est normalement pas trop élevé par rapport à notre vitesse maximale. Donc, on n'a pas besoin d'être aussi échauffé, dans le sens où, très souvent, ce qu'on dit, c'est que la durée de l'échauffement est inversement proportionnelle à la durée de la course. Quelqu'un qui va courir un 100 mètres, un 800 mètres, un 400 mètres, là, l'échauffement commence à vraiment être long. Sur un marathon, c'est vrai que juste un petit footing de peut-être juste 5, 10, 15, allez 20 minutes pour certains, quelques petites lignes droites pour délier les jambes, surtout passer peut-être un peu plus de temps, non pas sur de la course parce que vous allez déjà assez courir, mais sur beaucoup d'échauffement articulaire, c'est peut-être les conseils qu'on peut vous donner. Puisque maintenant on est passé plutôt sur des conseils vraiment pratiques, sur tout ce moment-là, il y a quelque chose qui est essentiel à mon sens, puisqu'on parle beaucoup d'attendre. On attend pour déposer ses affaires, on arrive en avance dans son sas, on s'est échauffé, etc. Et on demande aussi, très souvent, de prendre son petit déjeuner bien en amont pour justement se laisser le temps. Mais le problème, c'est qu'à force de se laisser le temps, très souvent, entre son petit déjeuner et le début de la course, on ne mange pas. Et là, ça, c'est une grosse erreur que je vois très, très régulièrement. En fait, il ne faut pas prendre un gros repas proche de la course, mais il faut continuer de s'alimenter. Dites-vous qu'à partir de votre dernier repas, c'est comme si vous commenciez à taper progressivement dans vos réserves. Vous n'allez pas utiliser beaucoup. 5%, grand maximum, 7, 8%, allez, ça serait déjà énorme. Le truc, c'est que ça serait dommage de partir ne serait-ce qu'avec 1% de déficit, alors qu'il aurait suffi de prendre une petite barre dans la poche, peut-être une petite boisson d'effort, un petit truc comme ça qui prend pas beaucoup d'énergie et qui va justement vous permettre d'arriver sur la ligne de départ dans la meilleure des formes. Est-ce que ça, c'est un genre d'erreur que tu as fait par le passé, de prendre ton petit déjeuner 3 heures avant, plus rien, et démarrer ta course et prendre juste un gel au cinquième?
Oui, et je te dirais même déjeuner un peu léger. Et du coup, déjà, on part avec... pas besoin de se gaver sur le petit déj d'avant-marathon, mais quand même, faut manger quelque chose qu'on a l'habitude de manger... Ce qu'on va faire d'habitude, en fait, c'est la plus grosse séance de la prépa, donc on essaye de répéter quelque chose qu'on maîtrise, et donc déjà bien manger là, et puis après, la petite boisson d'effort qu'on trimballe dans sa bouteille et qu'on boit tranquillement, parce que c'est pareil, c'est bien la boisson d'effort, mais faut pas se la boire d'un coup, sinon on se retrouve juste à aller trois fois aux toilettes sur le début du parcours, c'est pas le but non plus, donc s'il y a 50 centilitres à boire en 1h30, c'est le max. Souvent, je la finis même pas en général, cette bouteille-là.
Vaut mieux en avoir trop que pas assez, ça c'est une certitude. Pendant qu'on est sur les conseils, là on va parler d'un truc vraiment beaucoup plus large. Et je vous interrogerai après pour votre petit déjeuner, etc. Mais parce que c'est une petite rubrique qu'on a mis en place depuis le dernier Campus Talk, qui est le message du mois. Donc je vais juste reprendre un petit message de Damien. qui, alors lui ne courait pas sur le marathon de Paris, mais vient de courir un marathon là. Il me dit, ça y est, donc il le disait sur la communauté du campus, ça y est, la dernière séance du programme est passée, 83 sur 84, 21 semaines. Il reste seulement la course, le marathon est dimanche, mais quelle que soit l'issue, la victoire est déjà là. D'avoir été au bout, d'avoir réussi à faire autant de volume et d'avoir maintenu la régularité, ça prouve aussi la qualité du programme, etc. etc. Tout ça juste pour vous dire que l'un des conseils que je peux vous donner avant la course, c'est de vous détendre vis-à-vis de ça. Alors, tu l'as dit, toi, tu as déjà plein de marathons, tu commences à te détendre un tout petit peu. Toi, Tom, tu vas vraiment pour l'expérience, donc tu n'as pas cette pression du résultat, même si tu aimerais faire un chrono comme tout le monde. Mais ce que j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est que, en fait, c'est bon, vous avez déjà fait une grosse, grosse partie du job qui était de respecter votre prépa. On part du principe que vous l'avez respecté, évidemment.
À la lettre, oui.
C'est bien, c'est bien. Tu parles pour tout le monde dans le chat, t'as raison. Mais voilà, on dit 80% du job est fait, mais en fait, c'est même plus que ça. C'est, vous avez fini la plus grande mission et il faut vraiment voir la course comme un peu la récompense, la cerise sur le gâteau. Et c'est là où vous allez pouvoir tester votre entraînement et essayer de faire une performance à la hauteur de vos capacités, on l'espère. Mais en fait, que vous réussissiez, que vous ne réussissiez pas, c'est pas très important et ça n'a aucun impact sur ce que vous avez déjà fait à l'entraînement. Okay ? Donc ça, je le répète, et ça permet aussi d'abaisser un tout petit peu son anxiété parce qu'on se dit, en fait, quoi qu'il arrive, ça, je l'ai déjà dans la poche, ça, c'est déjà quelque chose sur lequel je vais pouvoir capitaliser et que je vais pouvoir mettre en avant aussi dans le reste de ma vie. Maintenant, c'est sûr que faire la course, ça prouve quand on réussit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, mais en fait, quoi qu'il arrive, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Je vous interroge à la fois sur ça et à la fois sur le petit déjeuner où je vous ai squeezé un tout petit peu.
Alors le petit déjeuner, c'est très simple pour moi. Ça, c'est souvent une banane avec des œufs et je prends pas beaucoup plus. Et il y a peut-être un peu de riz aussi, c'est intéressant. Ça, c'est un peu léger.
C'est quelque chose que tu fais habituellement, ça ?
Non.
Enfin, je veux dire banane, etc. Pas le riz, mais...
Oui.
Ok, en fait, c'est ton petit déjeuner quotidien, j'ai envie de dire.
Oui, donc je change pas trop, en fait.
Ce qui est le meilleur conseil, en fait.
Ouais.
Il avait peur de tomber dans un piège.
non.
Le but, c'est justement, au niveau du petit-déj, même si on peut augmenter un petit peu les quantités, en fait, toute la préparation, vous êtes entraîné avec ce petit-déj, imaginons que vous vous entraîniez le matin, il n'y a pas de raison que le jour de la course, vous fassiez quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le jour de la course. Ça a fonctionné sur tous vos fractionnés, toutes vos séances difficiles, ça va fonctionner pour votre marathon. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Après, oui, le riz, c'est un bon truc, etc. En général, ça peut s'essayer un petit peu en amont parce que le riz à 5h du mat, ça peut faire tout drôle. Moi aussi, sur mes courses, c'est ce que je faisais. Mais voilà, ça se prépare. Et toi, Octave ?
Moi, c'est très léger. Je pense que c'est juste des pancakes avec du miel et voilà, c'est tout. Je ne change pas les habitudes.
Ok, nickel. Et alors, vis-à-vis de votre préparation, vous avez tout bien fait, tout s'est bien passé. Vous savez que ça, c'est dans la poche ?
Franchement, j'ai réussi toutes les séances, sauf celle d'aujourd'hui où c'était le 3x15 au seuil. Vraiment compliqué celui-là.
Ah, tu savais qu'il y avait le podcast le soir, ça t'a stressé, ça t'a coupé les jambes.
Exactement. En fait, au bout de 5 minutes, j'ai complètement explosé et voilà quoi.
Ah, ça, c'est intéressant parce que ça peut arriver à des gens où justement toute la préparation se passe bien. Mm. C'était ton cas jusque-là ?
Ouais, c'était mon cas jusque-là.
Okay. Et là, dernière séance, la plus grosse séance de la préparation. Ah, punaise, ça se passe mal. La tuile. Voilà, là on voulait partir extrêmement confiant, en fait on finit sur un petit, pas une défaite j'ai envie de dire, mais sur un petit point négatif. Comment est-ce que toi tu le vis, comment est-ce que tu l'appréhendes ? On va voir s'il a été coaché par les meilleurs, quelle est la réponse ?
Je me dis c'est qu'une séance parmi tant d'autres, c'est qui va faire que je vais rater mon marathon au final. J'ai réussi je pense au moins 95% des séances, donc voilà, j'ai aucun doute que je vais réussir le jour J. Enfin les 20% restants, ouais. Aller chercher le jour J, quoi.
Ouais, et puis, ouais. C'était quoi ta dernière, enfin, ta séance précédente au 3x15
En seuil ?
Ouais.
C'était... Je suis complètement oublié, ça va me revenir.
Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, enfin, c'est sûrement soit un 3x12, soit un 4x10, soit un truc dans le genre. Ou 4x9, ou enfin bref, quelque chose dans le genre.
C'était un truc avec 8 minutes, je crois.
Alors, attendez, faisons les calculs. 5 x 8 ?
Ouais, 5 x 8, je crois que c'était ça.
Ok. En fait, c'est juste que... ce que je veux dire aux gens, c'est que par rapport à toutes vos séances précédentes, voilà, t'as réussi un 5 x 8, tu rates une ou deux semaines après ton 3 x 15. En fait, c'est pas très très grave. C'est peut-être même que justement, ton corps, il s'est peut-être dit... Si on extrapolait un tout petit peu, ok, j'ai envie de récupérer un tout petit peu. Là, je suis déjà dans le mode, la course, elle est dans 3 semaines, 4 semaines. Il faut que je commence à faire un petit peu de jus, etc. Bref, en fait, votre niveau de condition physique, vous l'avez. Donc, ce n'est pas une course, ce n'est pas une séance indépendamment de toutes les autres qui définit votre niveau de condition physique, c'est toute la trajectoire que vous avez eue sur votre préparation, toute la tendance, et c'est la moyenne des 10 dernières séances qui vont vous donner une idée de votre niveau de condition physique, pas une seule, parce qu'évidemment, en fait, sur une séance, il peut tout se passer. De la même manière que le jour de la course, vous aurez beau avoir tout fait, en fait, vous ne faites qu'augmenter vos probabilités. Quelqu'un qui arrive... les mains dans les poches, qui a fait n'importe quoi, il a 80% de chances que ça se passe mal. Quelqu'un qui a tout bien fait, qui a tout optimisé, qui a vraiment tout suivi, il a 98% de chances que ça se passe bien. Il reste toujours un 2 petits pourcents, mais il ne faut pas le prendre mal. Il faut plutôt voir ça comme une petite envie d'y retourner, de dire « Ah, les probabilités ont été contre moi. Bon, je sais que maintenant, les 50 prochaines autres courses vont bien se passer. » C'est statistique, aussi simple que ça. Est-ce que... on a fait le point sur l'échauffement, on a fait... le point sur la nutrition vis-à-vis du petit déjeuner et de la nutrition jusqu'à la ligne de départ. Est-ce qu'il y a des petites questions justement sur l'avant-course ? On peut commencer à rentrer un peu dans la course en elle-même. On est prêt pour la course ? Donc là, juste avant de parler de conseils sur la course, je veux juste qu'on fasse un petit point de revue du parcours et de stratégie de course spécifique sur le marathon de Paris, puisque on connaît tous le parcours. Même s'il a changé un tout petit peu la fin et que je ne l'ai pas parcouru. Voilà, juste donner des guidelines générales pour ceux qui vont le courir, pour justement qu'ils puissent optimiser un petit peu leur stratégie de course vis-à-vis de ce parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce parcours de manière générale ? Est-ce que tu l'as en tête, toi, Nico, encore ?
Oui, je l'ai en tête, mais je donnerai bien la parole à Octave parce qu'il a fait les deux recos,
c'est vrai.
Les deux fois 21, et c'est très récent, donc je pense qu'il l'a encore plus en tête que moi.
Dis-nous tout, Octave, à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu penses que ça serait quoi à peu près les difficultés ? Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais toi qui l'as fait, qui l'as encore bien en tête, qu'est-ce que c'est pour toi les difficultés principales ?
Les principales difficultés, déjà, c'est le faux plat descendant au début. Je pense qu'on a tendance à partir trop vite au début. Il faut faire gaffe à ne pas partir trop vite, ça peut cramer par la suite. Après, il y a quelques montées au début, la côte de Rille vers le 8e, il me semble.
Ouais.
Une petite difficulté, on ralentit un peu le pace, mais rien de difficile. Et après, il me semble qu'au niveau de l'hippodrome de Vincennes, il y a une petite côte aussi. Et après, on retourne sur les quais. Les quais, c'est traite parce qu'il y a
les tunnels.
Il y a les tunnels qui coupent un peu l'air. Donc, et les petites montées-descentes aussi qui coupent l'allure. Et à la fin, on arrive dans le bois de Boulogne. Il y a la côte du Trocadéro. Celle-là, elle fait mal parce qu'on est à la fin.
Mm-hmm.
Donc, voilà, ça, c'est les principales difficultés. Et de manière générale, de toute façon, le parcours n'est pas très plat. C'est pas une autoroute comme Valence, faut pas se le cacher.
Là, on a 260 mètres de dénivelé positif sur la course, ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est sûr que tous les trailers qui nous écoutent, à chaque fois, ça les fait doucement sourire, mais c'est quand même beaucoup sur un marathon. Alors, tu l'as dit, reprenons dans l'ordre, parce que tu les as toutes citées et tu as tout à fait raison. Première grosse erreur qui existe sur tous les marathons du monde, mais qui existe encore plus à Paris, c'est partir trop vite. Ça, c'est vraiment quelque chose... tout le monde a pu l'expérimenter à ses dépens, j'imagine. Mais le fait que ça soit en descente, souvent, on se sent pas, ça déroule bien, on est bien en forme, ce qui est normal. On sort de son affûtage, là, on est dans la forme de sa vie, on commence, on est bien chaud, on n'est pas encore entamé ni fatigué. Et le problème, alors c'est évidemment cette survitesse pendant la descente, mais c'est aussi que très souvent, on prend ce rythme sur quelques kilomètres encore. Et c'est tout le premier cinquième kilomètre où on fixe son allure vis-à-vis de ce qu'on a fait sur la première descente et on continue sur les kilomètres qui arrivent. Surtout que les premiers kilomètres, c'est là où on voit, on va dire, le plus de monuments parisiens avec l'Opéra, avec la place de la Concorde, etc. Donc on est aussi galvanisé. C'est aussi là où il y a beaucoup de gens avec l'arrivée. Donc voilà, cette première partie de la course qui est assez spécifique. En fait, ça pourrait revenir sur quelque chose comme le marathon de Boston, par exemple, qui démarre en descente aussi. La différence avec le marathon de Boston, c'est que normalement, il n'y a que des gens qui savent à peu près où ils mettent les pieds là-bas, ce qui est moins le cas à Paris. Ah, peut-être pas.
Les gens sont piégés aussi.
En fait, c'est très différent, je trouve, parce que l'avantage du marathon de Paris, c'est que le dénivelé, il est quand même réparti. Il y en a un petit peu partout, et du coup, il passe pas si mal. Marathon de Boston, c'est la même chose, mais en surboosté, on va dire la descente. C'est pas un petit faux plat descendant, c'est une vraie descente. Et le dénivelé, ils te le foutent en 8 km, histoire de te dire, tiens, allez, prends tes 400 mètres de dénivelé.
Et parfois, ça peut être encore plus straight parce que moins c'est clair, plus on peut se faire prendre au jeu. Alors que quand on a vraiment une grosse descente, là au moins on sait à quoi s'attendre. Là, c'est vraiment léger et justement beaucoup d'erreurs là-dessus. Tu l'as dit aussi, petite côte au 7e, 8e kilomètre qui s'appelle la côte de Reuilly. Comment est-ce que toi tu envisages de gérer son pace dans ces parties de dénivelé? Est-ce que tu penses qu'il faut faire à une vitesse égale? Est-ce que tu penses que justement faut essayer de stabiliser sa fréquence cardiaque? Qu'est-ce que toi tu recommandes, Nico?
Moi, je suis d'avis d'être un peu à gérer à la sensation dans les côtes, c'est-à-dire d'essayer de garder le même niveau d'intensité qu'on a sur le plat et de le mettre dans la côte. Et après, du coup, comme de toute manière, un pourcentage de côte, on ne va pas calculer exactement combien on va réduire de secondes, ça se fait naturellement. On veut essayer de continuer son effort. Et après, comme ça, une fois qu'on est en haut, on ne s'est pas cramé dans la côte et on peut dérouler gentiment dans la descente qu'il y a derrière et ça s'équilibre à peu près. On sait qu'au global, dès qu'il y a du dénivelé, on perd du temps sur son temps global au marathon un petit peu. Les descentes ne vont jamais compenser 100% les montées, mais on peut quand même réussir à lisser un petit peu son effort. Et en vrai, ça peut presque être un avantage de dire que musculairement, tu varies un petit peu versus un parcours tout plat. Allez, si on voulait se dire « Oh là là, un parcours tout plat, c'est trop facile, on varie pas. » Non, Paris est plus dur quand même, on va pas se le cacher, mais ça peut être un petit avantage comme de varier musculairement quand on commence à fatiguer.
Ouais, c'est vrai que ça apporte un petit peu de variété et ça permet au niveau musculaire de un peu moins saturer ou tout du moins un petit peu différemment. Je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux gens de se dire en fait c'est un peu normal si on regarde des données internes comme la fréquence cardiaque, c'est normal qu'en montée, elle monte un tout petit peu. Le but du jeu, c'est d'essayer de lisser notre effort le plus possible, mais pas non plus à 100%. Parce que si vous diminuez votre allure au point d'avoir vraiment la même fréquence cardiaque au BPM près sur la montée, ça veut dire que vous allez essayer de aussi jouer le jeu en descente. Et là, la vitesse que vous allez devoir atteindre pour réussir à le faire, l'écart de vitesse en fait va être beaucoup plus traumatisant que au lieu de décélérer de on va dire 20 secondes au kilomètre pour avoir la même fréquence cardiaque dans cette côte, peut-être descendez juste de 5-10 secondes au kilomètre et donc vous aurez que besoin de réaccélérer potentiellement de 5-10 secondes au kilomètre sur la descente, ce qui va être beaucoup moins traumatisant que d'accélérer de 20 où là on va faire une amplitude de vitesse de 40 secondes au kilomètre et c'est ça qui pourrait faire le plus de mal à votre course. Donc voilà, légèrement, alors quand je dis en sur-régime en termes internes, donc voilà, ayez pas peur si vous voyez votre fréquence cardiaque qui gagne quelques BPM, mais il faut que ça soit en contrôle. Il faut surtout, tu l'as dit, au niveau des sensations, toujours avoir l'impression d'être facile, surtout là où on est au 7e et 8e kilomètre. C'est vraiment pas là que la course se joue, et c'est un peu plus tard quand on va arriver, tu l'as dit, dans les bois de Vincennes, il commence à y avoir d'avoir un petit peu des vallons, mais c'est surtout à partir du moment où on arrive sur les quais de Seine, où là, quand on passe sous les ponts, les montées ont un bon petit pourcentage, il va vraiment falloir céder de ses bras, ça aussi c'est un petit conseil qu'on va pouvoir donner. Quand les côtes sont un peu raides, c'est le cas sur les quais, c'est le cas aussi au kilomètre 34, au boulevard Exelman, c'est ça ?
C'est ça.
Là pour le coup, on est bien fatigué, la côte est bien raide, et pas hésiter à céder de ses bras, et voilà. Et en fait, on va dire, plus la côte est raide, plus on peut se permettre de dériver vis-à-vis de notre moyenne, c'est ce qu'on disait, mais toujours en contrôle. De toute façon, quand on arrive au 34e kilomètre, qu'il en reste 8, en général, on a envie de faire plus que ça. On n'est que dans le contrôle, à ce moment-là, dans la survie.
Je vais repréciser un petit truc, parce que tu l'avais un peu, mais c'est bien aussi de dire qu'on parle souvent des montées qui sont difficiles, de ne pas négliger l'impact des descentes, parce que le marathon, un des murs, il est quand même... On a mentionné le mot mur un peu trop tôt. C'est l'aspect musculaire est important, et dans une descente, c'est facile de descendre, mais on peut quand même sacrément se flinguer musculairement et se dire, une fois qu'on est au milieu du bois de Boulogne à la fin, j'aurais peut-être pas dû courir aussi vite dans cette descente parce que maintenant j'aimerais bien avoir mes muscles encore un peu plus en forme. Donc c'est des choses qu'on peut négliger parce que c'est facile de descendre, c'est facile jusqu'à ce que musculairement on soit cramé.
Tu l'as dit, le mur du marathon. Octave, Tom, avez-vous rencontré ce mur un jour dans votre vie?
Plusieurs fois même, souvent en 30e, le fameux mur du 30e. Toi Tom?
Statistiquement,
moi j'étais arrivé très mal préparé, je l'avais pris dès le 15e. Du coup, j'ai souffert pendant 30 km presque.
Ouais, tu fais très bien le dire. Moi, je pense que sur mon premier marathon, ce qu'on pourrait appeler le mur, je l'ai eu aux alentours du 25, 26, 27e kilomètre.
À la sortie du bois de Vincennes, c'était terminé pour moi.
Et il en restait encore beaucoup sur la course.
Les cas étaient très durs, ouais, c'est vrai.
27 km de souffrance. Moi, ce que j'ai envie de souligner, alors ces conseils, tu l'as dit, hein, ça s'applique au marathon de Paris, mais ça s'applique évidemment à tous les marathons. La petite subtilité du marathon de Paris, c'est que le 30e kilomètre intervient pile quand on passe devant la Tour Eiffel. Et donc, il y a vraiment encore plus ce truc de « Ah, quand je vais passer devant la Tour Eiffel, mes jambes, elles vont être coupées, etc. » Et le problème de ce discours sur le mur du marathon, c'est que parfois, il y a une petite prophétie un peu autoréalisatrice. À force de penser qu'il va se passer une dinguerie au 30e kilomètre, il se passe une dinguerie au 30e kilomètre. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'aime rappeler quand on parle du mur du marathon, c'est que si vous marchez 42 kilomètres, vous n'aurez pas de mur. Et si vous courez votre marathon à votre allure 10 km, le mur, vous allez le taper au 7e. En fait, c'est qu'une question d'allure. Et en effet, si on est vraiment dans son pace marathon, qu'on est vraiment dans la bonne allure, en général, le moment où on va vraiment commencer à souffrir et où il va falloir vraiment commencer à lutter activement et fortement sur votre course, c'est en général, si c'est bien fait, aux alentours du 35, 36, 37 km. Et le problème, justement, si on a couru un tout petit peu trop vite et qu'il arrive au 30e kilomètre, pourquoi est-ce que le mur du 30e kilomètre, on en parle plus que du mur du 35? C'est parce qu'en fait, c'est 5 km de différence qui va faire à peu près aller 20, 30, 40 minutes en fonction de son niveau. Ça fait toute la différence parce que quand il reste 1 heure de course ou qu'il reste 1h40 de course, là tout de suite, c'est pas la même chose. Quand faut tenir, 30, 40, 1 heure, on peut mentalement réussir à tenir cette distance-là parce que l'allure marathon, ça passe. En revanche, quand il reste 1h30, là, mentalement, c'est trop difficile de tenir jusqu'au bout. Et c'est là où, en fait, quand ça arrive au 30e kilomètre, alors parfois c'est brutal, mais pour diverses raisons, ça peut être un problème nutritionnel, on a eu une mauvaise nutrition, ou alors, un problème gastrique ou quoi que ce soit. Ça arrive statistiquement, évidemment. Mais sinon, la majeure partie des gens, ça va juste être... ils vont juste sombrer progressivement jusqu'au moment où ils vont se dire « Ah ouais, là, ça commence à être vraiment dur, est-ce que je ne marcherai pas ?» Et c'est ça qu'on appelle, entre guillemets, le mur. Mais voilà, tout ça pour vous dire, il ne se passera rien au 30e kilomètre si vous êtes dans le bon pace. C'est juste, vous allez sombrer progressivement jusqu'au moment où vous allez vous dire « Allez, maintenant, il faut commencer à se retrousser les manches. » Et ce que je vous dis, si vous faites un marathon et que vous le courez tranquille, alors soit si vous ne vous appelez pas Nico Running Addict au marathon de l'année dernière, mais il y a des gens qui le courent juste tranquille et en fait ça se passe bien du début jusqu'à la fin. Ce que j'expliquais, si vous marchez 42 km, ça va bien se passer. Si vous joguez tranquillement 42 km, il y a aussi de grandes probabilités que ça se passe bien. Tu as un contre-exemple, Nico, mais voilà, ce que je...
On va pas se cacher que mon contre-exemple, il est après 3 jours de salon, oui, debout... Aussi. Fatigué comme jamais, donc peut-être que le contexte n'était pas terrible pour courir un marathon. Quel que soit le niveau, en fait, t'es cramé, hein. Ça reste 42 km.
Le petit conseil de ne pas faire 3 jours de salon avant un marathon, c'est ça, même courir doucement, c'est peut-être ça ton meilleur conseil aujourd'hui.
Si vous venez au salon, passez-y le moins de temps possible, idéalement pas 3 jours, je sais pas ce que vous foutriez 3 jours au salon, mais on sait jamais. Vous restez sur le stand campus pendant 3 jours, non, c'est une mauvaise idée.
Donc ça, c'était justement vis-à-vis du mur du marathon, c'est vraiment un sujet vraiment central. On a plusieurs occasions à l'année d'en parler. Pour moi, c'est important. Maintenant, parlons un petit peu ravitaillement. Donc sur le marathon de Paris, il y a un ravitaillement tous les 5 km. Donc là, c'est plutôt tranquille. Il me semble que vers la fin, ça se rapproche un tout petit peu. Il y en a un au 38e, ça tombe pas au 40e pile. Mais sinon, voilà, dites-vous, ravitaillement tous les 5 km, où vous allez pouvoir soit trouver des choses sucrées, soit juste de l'eau, parce qu'en fait, c'est pour moi l'avantage prioritaire des ravitaillements, c'est de pouvoir se ravitailler en eau. Parce que autant on peut partir avec tous ces gels sur soi, autant partir avec toute l'eau sur soi, hormis si on a un camelback ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus rarement. Est-ce que toi, tu as des conseils, Nico, globaux sur... la nutrition du marathon? Là, il reste quoi? Il reste 2 semaines avant le marathon? C'est trop tard pour donner le conseil que tu as envie de donner, mais donne-le quand même.
Alors, c'est presque... Je sais plus ce que j'ai vu dans les notes, Tristan a écrit, c'est presque pas trop tard, oui, ou un truc comme ça. Et oui, c'est ça. C'est que ça sera trop tard, c'est pour venir nous voir au salon et nous dire, alors, qu'est-ce que je fais demain? Là, vous allez juste nous voir en train de pleurer intérieurement, parce qu'on ne saura pas quoi vous répondre. Est-ce qu'on lui détruit sa course ou est-ce qu'on le laisse découvrir lui-même que c'est trop tard? Là, il y a encore moyen au moins de tester un petit truc sur la petite sortie longue de dimanche qui dure 1h45, si je me rappelle bien, sur le campus. Mm-hmm. Donc, il y a quand même encore 1h45 pour tester quelque chose. Donc, ça ne sera pas la stratégie optimale en démarrant aujourd'hui, mais il faut en avoir une stratégie de ravitaillement, en fait. Donc, tester les gels, ça peut être, c'est quelque chose qui marche bien quand même pour les courses. Oui. C'est un format facile à ingérer. On prend son petit 25 grammes de glucides et hop. C'est pas quelque chose de forcément agréable, un gel. Il y a des gens qui disent je les tolère pas du tout. Je vais pas vous dire que moi c'est ma tasse de thé le gel que je vais prendre. Hein. Au final, c'est juste parce qu'il faut. Et on entraîne notre estomac à les prendre. Donc là, ça, bon, le conseil est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Et il n'y a pas que ça. Il y a les boissons de l'effort aussi qu'on peut utiliser. Ou des choses plus concrètes qui prennent un petit peu plus de temps à manger. Mais sur les ravitaillements du Marathon de Paris, il y a des bananes, il y a du pain d'épices, carré de chocolat. Il y avait des sucres à une époque aussi.
Bon. Il y a encore des sucres.
Ouais. Donc, ça peut marcher hein, avec la petite bouteille d'eau aussi. C'est des glucides. Mais du coup, pour manger sa banane ou son pain d'épices, ça ne se fait pas en courant. Ça prend une petite pause. Essayez. J'ai envie de dire, dans tous les cas, ne vous dites pas « Ah, moi, le ravitaillement pendant le marathon, c'est pas possible. » Parce que si vous vous dites ça et que vous n'avez jamais fait de marathon, le mur, là, par contre, je peux vous garantir qu'il va arriver à un moment ou à un autre et sûrement avant le 30e.
Toi, Tom, c'est justement un gros travail que tu as eu sur toute ta préparation. Donc, comme Nicolas dit, bon, si vous avez vraiment rien fait sur votre nutrition parce que peut-être vous venez de nous découvrir, vous n'avez jamais regardé Campus, vous n'avez jamais écouté, bon, c'est pas très très grave, il vous reste encore un tout petit peu de temps pour au moins tester les produits, voir si vous aimez le goût, voir si vous aimez la texture, parce qu'en fait il y a un problème principal qui peut être lié à la texture où en fait parfois même si on aime le goût, quoi que ce soit, d'un point de vue digestif, il y a un blocage nerveux qui se fait que si jamais c'est trop acide, trop gluant, trop truc, trop machin, il peut y avoir un blocage. Bref, donc au moins si vous le testez avant pour savoir que ça passe, c'est déjà une grosse balle perdue d'éviter, on va dire ça comme ça. Mais en effet, en général, eh bien, on s'y entraîne un tout petit peu en amont. Comment, alors, sans trop parler de détails de comment est-ce que tu l'as implémenté, mais quels étaient tes limitants principaux? Pourquoi est-ce que tu t'alimentais pas avant, par exemple?
Je sais pas pourquoi, mais par exemple sur le marathon de Paris l'année dernière, je n'avais pas pris de ravito, je crois, enfin pas de gel ni rien.
Le marathon où t'as pris le mur au 15e, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est celui-là même. Voilà. Non, c'était juste pour rappeler. S'il y en a qui arrivent maintenant.
D'ailleurs, c'est le premier plan campus que je suis et c'est très bien parce que ça m'apporte beaucoup plus de structure qu'avant dans mon entraînement. Et les gels, j'ai surtout réussi à les assimiler sur la dernière sortie longue de 32 km. Mmh. J'ai dû beaucoup me forcer parce qu'avant, j'arrivais à ingérer que un tiers du gel parce que j'aimais vraiment pas ça et c'était terrible. Mais là, vraiment, j'en ai pris un toutes les 30 minutes de 40 grammes. Et à la fin, j'avais un peu l'estomac qui n'était pas très content, mais ça s'est bien passé. Du coup, je pense que c'est bon signe pour le jour J.
Il y a vraiment eu ça, c'est important parce que tu as essayé plusieurs fois.
Ouais.
Et les premières fois, ça ne s'est pas trop bien passé ou tu n'avais pas trop envie ou quoi que ce soit. Il y a vraiment eu ce moment où tu te dis « Non, ok, le plan, c'est ça, je le fais. Certes, j'en ai pas envie particulièrement ou quoi que ce soit, mais je vais me forcer parce que
voilà,
justement… »
Je me suis vraiment forcé. Quoi.
C'est ça, pour justement s'y entraîner et espérer qu'un jour, ça aille bien. Parce que typiquement, en début de préparation, si vous aviez testé votre allure marathon, vous étiez « Wow, ça, jamais je le tiens 42 km. » D'ailleurs, là, il y a une grande partie des gens aussi sur la séance test, ils se disent « Alors ça, jamais je tiens à 42 km. » Et en fait, au final, si ça se passe bien, parce que justement, grâce à l'entraînement, on progresse. Donc ouais, il y a aussi ce truc de quand tu fais un fractionné, si je te disais écoute, tu peux avoir autant de bénéfices sans te faire un fractionné, je pense qu'on passerait tous sur la séance fractionnée parce que ça fait quand même un petit peu mal. C'est un tout petit peu, on va dire, le même état d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis de sa nutrition. Et oui, s'y entraîner. Et ce que je voulais appuyer, c'est vraiment le truc de deux choses. Un, s'y forcer un tout petit peu, parce que si on le fait juste à l'instinct, en général, on ne le fait pas assez ou on ne force pas assez. Et deuxièmement, cet aspect progression. Tu l'as dit, entre le moment où tu as commencé les premières fois et, ouais, les dernières, il y a eu un vrai gap.
Oui, c'est clair. Vraiment, au début, je n'arrivais même pas à ingérer un tiers des gels. Et vraiment, à la fin, j'ai vraiment bien entraîné mon estomac. Du coup, ça, c'est cool. Je voulais préciser un point. Je voulais te remercier, Tristan, parce que j'ai eu l'honneur de faire le Reverse Dead Meal pour soigner mes douleurs de périostite.
sur un autre sujet, sur la prévention des blessures. Je les convertis tous. Il y a 50% des gens sur cette table, 75 avec moi, 75% des gens qui le font. Octave, tu es le prochain.
Donc j'ai vraiment commencé le plan pour les soigner un week-end et c'est parti vraiment 2 jours après.
Ne donnons pas mon secret contre les périostites ici.
Comme dirait Tristan, trop de stress, hein, c'est du stress. Donc
exactement,
bon.
Exactement. Il sera révélé sur campus en temps voulu. Petite question, Nico.
Ouais. Petite question qui nous vient du chat de Jean Fontaine. Les ravitaux sont-ils efficaces au Marathon de Paris? Vu que Thomas Delpoche n'a pas pu venir, bah, on va prendre aussi les questions sur et celle-là, je la connais, parce que j'ai fait le semi il y a 2 semaines et c'est la même orga, donc c'est assez similaire. Un petit conseil, les ravitaillements sont efficaces au Marathon de Paris parce qu'ils sont très longs. Donc, n'allez pas prendre la première bouteille à la première table. Pendant les premières tables sur 20-25 mètres, il y a du monde. Mais si vous allez plus loin, que vous attendez, là, par contre, c'est royal. Vous avez la place, vous pouvez prendre n'importe quelle bouteille. On vous entend 5 ou 6. Donc, ne vous jetez pas sur le début du ravito. Il y a vraiment de la place pour la suite et ça sera beaucoup plus relax de faire comme ça.
D'ailleurs, j'en profite parce que le Marathon de Paris est l'une des rares courses à proposer pour l'eau des bouteilles. Alors, ils ont tout un système de recyclage après parce que justement, déchets plastiques, etc. Mais le fait d'avoir des bouteilles, c'est le meilleur moyen pour réussir à s'hydrater. Parce que boire dans un gobelet à allure marathon, c'est pas forcément facile. Je vous donne ma petite stratégie si jamais ça vous intéresse. Vous prenez juste la bouteille et au lieu de boire comme d'habitude, vous compressez la bouteille pour envoyer l'eau dans votre bouche et c'est beaucoup plus facile. Et vous n'allez pas avaler d'air, voilà, des choses qui pourraient être désagréables pour la suite de la course. Donc voilà, c'est mon petit conseil bouteille. C'est l'une des seules courses que j'ai faites où il y avait des bouteilles et c'est quand même très très appréciable. D'ailleurs, en parlant de bouteilles d'eau, est-ce qu'on donne un petit conseil par rapport à l'hydratation de manière générale? Moi, la règle que je peux donner aux gens, parce que, encore une fois, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que Tom, on a parlé de nutrition, mais tu ne buvais jamais non plus à l'entraînement.
Non, tout ce qui dépassait, tout ce qui était inférieur à 20 km, je faisais en autosuffisance. Donc,
et autosuffisance, c'est pas avoir sur soi, c'est en voilà, fait, non, aucune sans, suffisance.
Sans eau, ouais, c'est ouais. Ça. Non, insuffisance du coup.
Mais du coup, t'as dû aussi t'entraîner à boire un peu plus.
Ouais. Ouais, mais je bois pas énormément
sur ça.
Je bois pas énormément, donc okay. Ça n'était pas une adaptation aussi forte que pour l'alimentation des gels, par exemple.
C'est marrant parce que je serais incapable de dire c'est lequel des marathoniens, mais sur le projet Breaking 2, il y a un des 4 marathoniens qui avait été sélectionné où en fait il était ultra performant sur semi-marathon avec des temps de zinzin. Et ce qu'ils disent, t'as le nom? Non,
t'as
bref. Bah, c'est ce que
t'as
je me serais. Mais bref, en gros, quelqu'un mais qui a des chronos stratosphériques sous l'heure sur semi-marathon, et en fait, il abandonnait énormément de ses marathons, et ils lui ont dit, mais tu bois sur tes marathons? Et tu quoi? Bah non. Et en fait, ils l'ont fait boire, et il réussissait ses marathons, et il passait sous les 2h05. Alors, je pense que c'était pas aussi facile que ça, il y avait peut-être un peu de nutrition aussi. Mais bref, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est juste, pensez à boire régulièrement, mais vous forcez pas à boire. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme conseil, mais ce que je veux dire, c'est que entamez la démarche de boire et buvez la quantité que vous voulez boire au moment. C'est-à-dire, il faut juste se lancer et peut-être que ça va être une gorgée, peut-être que ça va être 4, peut-être que ça va être 6. En fait, c'est buvez à votre soif, mais ne buvez pas quand vous avez soif. Un tout petit twist qui paraît peut-être anodin, mais qui en réalité est vraiment important. Et là, typiquement, Tom, tu vois, l'une des choses sur lesquelles tu pourrais t'entraîner sur tes préparations futures si jamais ça t'intéresse, c'est juste de se dire même si je ressens pas forcément la soif, juste de manière régulière. Alors peut-être que certaines personnes ça pourrait être toutes les 15 minutes, mais peut-être que toi ça va être tous les 10 km, tous les 5 km, et juste entamer le processus de boire et puis s'arrêter là. Et en fait, au final, juste en buvant régulièrement, peut-être que tu vas réussir à boire 400 ml par heure, et ce qui est déjà une belle quantité.
Ouais, carrément. Moi, j'ai juste un petit problème au niveau du réservoir quand je bois trop.
Ah, c'est le problème. Faut courir plus vite pour plus transpirer, Tom.
quand je cours plus que 1h30, je dois m'arrêter pour faire mes besoins, du coup.
Dommage. une petite limite, mais c'est là où se connaître, c'est important, et il y a une petite individualisation là-dessus. Oui. Donc le jour où, c'est quoi ton chrono déjà, 2h45, 2h50?
C'est ça, ce serait de descendre sous les 2h40, bah, on verra sur la forme du jour, mais 2h45, ouais.
Ok, donc ça dépendra de la quantité d'eau que tu bois et combien de fois tu devras t'arrêter aux toilettes.
On va espérer tenir sur 2h45.
Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur l'hydratation, Nico?
Je dirais juste qu'avec le temps, j'ai plutôt tendance à moins m'hydrater sur marathon. Grosso modo, si je donnais ma quantité, elle est simple. C'est ma boisson de l'effort, donc 3 gourdes de 250 ml sur... je faisais pareil depuis 2h45. Donc, c'est pas énorme hein, sur une course, mais ça m'a jamais posé, j'ai jamais l'impression que ça me posait un souci. Et du coup...
ça fait 350 ml par heure.
Ouais, à peu près, oui, c'est ça. Bon petit calcul. J'ai tendance à penser, mais c'est une pensée, que vaut mieux être légèrement sous-hydraté que être surhydraté sur une course.
Ça me fait parce que moi, c'est souvent l'exemple que je prends quand j'ai fait l'Ironman à Hawaï. Je me suis pesé 6 kilos moins lourd à la fin. Et je crois que quand tu regardes dans le top 10, ouais, il se pesait entre 4 et 10 kilos moins lourd qu'au départ. Et tu sais, t'as l'adage un peu dans général qui dit quand tu perds 1% de ton poids de corps, tu perds 10% de ta force, quelque chose comme ça. Toi, tu te retrouves avec des gens qui perdent 10, 15, 20% de leur poids. Alors évidemment, c'est pas nécessaire, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très sorti de son contexte. Et on peut en général perdre quand même un peu de poids de corps en eau sans qu'il y ait un impact sur la performance. C'est pas aussi simple que 1%, 10% de force. Sinon, en fait, tu finirais. Les gens qui finiraient à l'Ironman d'Hawaï auraient perdu 50% de force. Bref. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour des conseils qu'on pourrait donner sur le marathon. Est-ce que vous avez autre chose, vous, qui pourrait. Des questions que vous pourriez vous poser ou des petites interrogations? Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas les plus débutants. Mais est-ce que vous avez des choses qui vous restent? Est-ce que toi, tu vois d'autres conseils? Sinon, c'est ce que je disais, on va finir par une petite partie FAQ. Ça fait là 1h05 qu'on est ensemble. Mais s'il y a des petites questions qui restent, vraiment des trucs très précis, très techniques, là maintenant, on est dans la précision. On a parlé des choses très génériques, très générales. Rentrons dans la précision et levons le doute à toutes ces personnes qui ont peut-être la petite question où ils se disent « Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on la pose ?» On est là pour ça, prenez le temps.
Pose-la. J'ai vu que t'en avais une.
Je n'en ai pas. Ah. Mais j'allais dire quelque chose. Parce que je sais que c'est une question qui vient de plus en plus. J'ai vu passer des petits débats. Si on veut emporter son ravitaillement, est-ce qu'un sac de trail, c'est une bonne idée sur le marathon? Alors, moi, j'ai mon avis là-dessus. Mon avis, c'est qu'on s'en fout du look. C'est pas parce qu'on est sur un marathon. En fait, on va faire un trail de 20 bornes. On a le droit de partir avec un sac de trail. Et on va faire un marathon, on n'aurait pas le droit de partir avec un sac de trail. Enfin, il faut m'expliquer un petit peu où est le problème. Bref, je pense que c'est... En fait, si ça rassure, que ça permet d'emporter 100% de ce qu'on veut manger et d'être à l'aise avec ça, c'est la meilleure stratégie du monde. Parce que l'important, c'est de se ravitailler sur le marathon. Donc, voilà.
C'est pour la petite anecdote que je vous donne en exclusivité, c'est Manon Trapp qui va tenter de battre. C'est pas encore passé à Rotterdam, non. Le record du marathon féminin français, qui apparemment court ses sorties longues au Kenya avec un sac de trail, et ce qui fait beaucoup rire ses compagnons, dont mes 10 frères. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui courent très vite, qui courent avec des sacs de trail, donc pas de raison de s'en vouloir. Je sais qu'une alternative qui peut être très intéressante aux sacs de trail, c'est les shorts de trail qui contiennent beaucoup plus de poches que les shorts de course à pied de route et dans lesquels on peut mettre beaucoup, beaucoup de gel. Moi, à l'époque où je courais le marathon, je courais vraiment à l'ancienne avec une petite banane que je passais sous mon short. Et parce que quand tu dois rentrer 8-10 gels, ça prend de la place, hein. Il n'y a pas assez de place dans les poches. Donc ouais, c'était ma petite solution. Mais ouais, regarde, c'est vrai que sur le trail, la nutrition est quand même quelque chose qui est beaucoup plus développé et il y a des trucs techniques, enfin des habits techniques qui existent, qui sont un peu plus développés que ce qu'il y a sur route actuellement, parce que la route, c'est vrai que c'est le short fendu ultra court, le débardeur ultra léger et point barre. Est-ce que vous voyez d'autres questions qui peuvent arriver dans le chat ou s'il n'y en a pas eu, c'est bien, ça veut dire qu'on a été exhaustif, c'est-à-dire qu'on a bien répondu aux questions et moi, ça me va parfaitement.
Et peut-être une question sur la sortie test. J'ai foiré ma sortie test avec mon allure marathon dimanche dernier. Est-ce ajuste J'ai pas compris.
Bon, en gros, qu'est-ce qu'on fait?
J'ajuste, voilà, c'est
okay.
ça.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses qui doivent être prises en compte. Déjà, la première chose, c'est que si c'est une séance qui a été ratée de manière isolée de toutes les autres, parce que certes, c'est la séance test, mais il y a eu d'autres séances. Alors, allure marathon, oui, mais aussi à d'autres allures, mais je vais parler spécifiquement de l'allure marathon. Bah, à partir du moment où on a fait ces séances et que ça s'est bien fait, et il n'y a que celle-là qui s'est mal passée, déjà, il faut relativiser un tout petit peu et... On peut se dire, d'accord, peut-être que je vais partir un peu conservateur le jour J, je vais voir un petit peu comment ça se passe, et puis bah, si ça se passe bien, en fait, je vais juste courir à l'heure qui était prévue, et je pars du principe que c'était juste un mauvais jour. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas où, bah, en fait, c'est un peu une tendance, et on voit qu'on est un petit peu ric-rac. Le mieux, évidemment, alors s'il pose la question, c'est que peut-être c'est son premier marathon. L'avantage d'avoir répété des marathons, c'est qu'on connaît un petit peu sa fréquence cardiaque cible, on sait un tout petit peu où est-ce qu'on veut aller, tant en termes de... ressenti d'effort, que de fréquence cardiaque, etc. Le truc, c'est que bah, si on n'a pas toutes ces données, il bah, faut se fier un petit peu à sa confiance. Et si vraiment c'est une tendance où ça se passe un tout petit peu mal, ce que je peux juste vous dire, c'est voilà, ça vaut le coup, si c'est votre premier marathon, de partir plus doucement et de faire une bonne course. Quitte à se dire à la fin, franchement, j'aurais pu courir un tout petit peu plus vite, j'aurais pu courir une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes plus vite, bah, c'est pas grave, revenez-y. Retournez sur marathon et prouvez-vous que vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, vous aurez votre fréquence cardiaque, vous aurez votre ressenti d'effort, vous aurez amélioré votre expérience. Et c'est là où bah, vous allez pouvoir rentabiliser au mieux votre expertise dans cette distance.
Je prends une petite question que j'ai vue passer d'Alexis, mais je sais qu'elle est déjà venue plusieurs fois avant sur le check-out run quand on en parlait. À J-1 ou à J-2 moi, mon avis, et je pense que c'est ce qu'on a même mis sur le campus, c'est votre choix. Ouais. Si vous voulez le faire avec nous, ça sera à J-1 parce qu'il est organisé le samedi. Mais que vous preniez jour de repos la veille de la course ou l'avant-veille, il n'y a pas de dogme là-dessus. C'est un peu ce qui vous fait vous sentir le mieux. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit run la veille de course quand même pour m'activer. Mais toi, je crois que tu faisais l'inverse, il me semble.
Ouais, moi, je fais ça l'avant-veille, donc typiquement parce que la veille de la course, je trouve que ça me laisse trop de traces. Si j'ai vraiment envie d'être léger, de pas avoir mal aux tendons, de musculairement être bien, moi, je trouve qu'il y a une petite corrélation avec le poids de la personne, où en général, plus le poids est élevé, plus on aura tendance à le faire l'avant-veille. Et après, bah, quand en général, on n'a pas de problème. Enfin, tu vois, c'est des profils où moi, sur mes fractionnés, typiquement, bah, j'aurai plusieurs jours avec des petites courbatures et des petits trucs. Donc, si je veux vraiment être tranquille vis-à-vis de ça, je me prends pas trop la tête et la veille c'est juste les jambes en l'air dans la chambre d'hôtel et on attend notre sentence. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment personnel. Et toi, bah, typiquement c'est quelque chose que tu as vu à l'entraînement où c'est aussi simple que bah, j'ai remarqué que mes fractionnés, quand je courais pas la veille, je suis moins en forme que quand je cours. Bah, en fait c'est quelque chose que tu as vu à l'entraînement et que tu appliques le jour de la course. Parfois c'est des raisonnements aussi simples que ça. Si on a vu que quand on court la veille ça se passe bien et quand on court pas la veille ça se passe un peu moins bien, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est autoréalisateur ou non, bah, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est juste avoir confiance dans ce qu'on fait. Allez, une petite dernière.
Parce que c'est un sujet qu'on a traité dans un sens. On a... qui c'est qui pose la question? Captain Gino, qui dit: est-ce que la chaleur aussi, 23 degrés au lieu de 10, peut être la raison que ça soit plus compliqué que prévu? Oui, pour la faire simple. S'il fait frais, au final, dites-vous que c'est une bonne nouvelle. Vous aurez peut-être frais un petit peu dans le sas, mais pour la course, ça sera génial. Moi, je vous souhaite qu'il fasse moins de 10 degrés avec des nuages pendant toute la course. Là, vous aurez les meilleures conditions pour performer. S'il fait 15 avec du soleil, bon, ça va encore, mais vous allez commencer à le sentir sur la fin. Et s'il fait 23, pour un mois d'avril, ça risque d'être compliqué. On va le dire comme ça. Et il faudra adapter.
Oui, bah, c'est là où, par exemple, l'équipement que vous allez avoir sur le marathon est important. Alors, de la même manière qu'on vous a dit, testez votre nutrition avant, c'est vrai que le matériel, ça se teste aussi avant, mais il y a des stratégies vestimentaires qui peuvent être drastiquement opposées, et en fait, il y en a une où ça va fonctionner et une autre non. Je prends un exemple, le matin, il fait frais, on se dit, bah écoute, je vais partir avec un t-shirt à manches longues, et puis je retrousserai mes manches quand il commencera à faire chaud. Bon, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Si je prends l'exemple de la chaleur, en fait, l'idée, c'est de couvrir le plus possible ses périphéries, les bras, les mains, la tête, et de découvrir le plus possible l'aspect central, donc le buste. Et typiquement, bah, si on prend un t-shirt à manches longues, parfois même par-dessus un t-shirt, bah, en fait, on a une double couverture sur la zone centrale et une seule couche sur les bras, alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. Donc, c'est là où les manchettes, ce genre de choses, ces vêtements techniques peuvent être mis à contribution, ou bah, des bardeurs manchettes, vous aurez aussi chaud qu'avec un t-shirt à manches longues. La différence, c'est que bah, les manchettes, déjà, ça s'enlève. Et, bah, voilà. Et au final, au niveau central, vous serez moins couvert. Donc, on peut jouer là-dessus. Et c'est plus simple bah, de mettre des manchettes dans sa poche qu'à mi-course, retirer son t-shirt à manches longues, si on peut le retirer, parce que bah, parfois, on peut juste retroucher ses manches et on est coincé avec un truc un peu trop épais et un peu trop chaud vis-à-vis des conditions qui ont bien évolué.
C'était pas pour le style, les manchettes. Moi, je pensais que c'était juste pour faire comme Kipchoge. Moi.
C'est vrai que ça fait courir plus vite, faut le dire, mais c'est pas que ça. Et bah, écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions ou si nous avons répondu à la grande majorité... je vais proposer qu'on termine ce live. Tom, Octave, merci beaucoup d'avoir participé à ce live et d'avoir personnifié un tout petit peu le marathonien du Marathon de Paris qui arrive. Merci beaucoup. Je vous laisse dire un dernier petit mot et puis on va se quitter là-dessus.
Bah, merci beaucoup à tous et on vous attend très nombreux au Shakeout Run dans deux semaines. Hein.
Voilà, il y a tout dit. Venez nombreux au Shakeout Run et défoncez tout le jour de la course.
Ouais, bon courage, très corpo, c'est bien, vous avez bien bossé, on ne les a pas obligés, ils ne sont pas menacés. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on espère avoir répondu à vos questions, surtout de vous avoir apporté un peu de tranquillité, un petit peu de motivation. Comme ils l'ont dit, la préparation est derrière vous, ça va bien se passer, on a hâte de vous retrouver sur le salon du Marathon de Paris et je vous dis bonne fin de prépa, bon affûtage et à bientôt.